recevons André Feillard, qui est chargé de recherche au CNRS, pour une conférence qui est consacrée aux islams d'Extrême-Orient. Cette conférence, pour ceux qui découvriraient le cycle, s'inscrit dans le cycle Islam d'aujourd'hui, qui vous est proposé jusqu'au 13 octobre, en partenariat avec l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman de l'École des hautes études en sciences sociales. Et je remercie, mais vous l'avez, ceux qui sont déjà venus ont fait sa connaissance, je remercie notamment mon collègue et ami Jean-Philippe Bras, qui nous a fourni cette programmation. Nos prochaines conférences auront lieu du 9 au 17 janvier autour d'une thématique qui n'est pas encore arrêtée mais qui sera probablement, je dis bien probablement, sous réserve, les apports de l'investigation des génomes. Ça changera complètement de sujet. Donc, bon, vous savez pour la plupart, et sinon vous pouvez regarder la documentation qui est disponible sur les tables à l'entrée. Vous savez que nous sommes accessibles sur Internet. Toutes les conférences sont en vidéo sur Internet et beaucoup sont avec les textes. Donc les 648 conférences sont sur Internet, soit sur le site de Canal U. Et nous nous efforçons de mettre le plus de textes possible en ligne. À la radio, les conférences passent sur France Culture entre 6h et 7h dans l'émission L'Éloge du Savoir, mais je ne connais pas encore la programmation pour la diffusion de cette série sur les islams. Enfin, vous pouvez nous retrouver à la télévision de temps en temps sur les amphithéâtres de France 5 à des heures impossibles. Un certain nombre de livres ont été publiés aux éditions Odile Jacob. Mais nous avons retenu désormais la formule de mettre directement les textes en accès sur notre site www.utls.fr en accès libre. Voilà. Alors je présente la conférencière de ce soir qui va nous parler des islams d'Extrême-Orient. Il s'agit d'André Feillard qui est chercheur au CNRS. Elle est née en 1950. Elle a un doctorat en histoire et civilisation de l'École des hautes études en sciences sociales, sur la plus grande organisation musulmane traditionnaliste d'Indonésie, et ses recherches portent sur les relations entre islam et politique en Indonésie surtout, mais plus globalement en Asie du Sud-Est. Elle a été journaliste à l'agence France Presse de 80 à 85, responsable d'Asia Week à Jakarta de 85 à 89, et elle a séjourné 20 ans en Indonésie. Elle a enseigné dans diverses institutions et universités, à l'Institut national des langues et civilisations orientales aussi. Je signale essentiellement deux de ses publications, l'islam en Asie du Caucase à la Chine, à la documentation française internationale Paris, décembre 2001, donc ça couvre l'intégralité du sujet, et puis une parution plus récente, la fin de l'innocence, l'islam indonésien face à la tentation radicale, de 1967 à nos jours, les Indes savantes, Paris et Bangkok, Irasek, 2006. Donc je lui donne la parole pour une cinquantaine de minutes, un peu plus même, et ensuite, bien sûr, vous pourrez lui poser vos questions. Voilà, merci, bonsoir.
Alors je vous remercie. L'Extrême-Orient compte plus de 232 millions de musulmans et bien plus encore, et l'Asie du Sud-Est à elle seule en compte 214, c'est-à-dire environ 40% de la population de cette zone. C'est trois fois plus que la région du Maghreb. Alors ces chiffres expliquent l'intérêt légitime que nous portons aujourd'hui à cette région aussitôt dans ce cycle de conférences. Car si on a longtemps parlé de l'islam périphérique, il faut rappeler que l'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde par sa population, c'est-à-dire 189 millions d'habitants, donc 88% du total. Mais elle est devenue récemment, depuis 1998, et c'est très important, la plus grande démocratie musulmane. Au moment où l'on débat autant du devenir de la démocratie dans le monde musulman, et de l'intégration des intégristes, des islamistes, à laquelle résistent les régimes autoritaires, l'expérience indonésienne mérite donc une attention particulière. L'islam en Extrême-Orient n'est pas monolithique et sa grande diversité est visible autant dans la pratique que dans l'administration religieuse et la législation du statut personnel dans les 10 États-nations concernés et dont nous allons parler aujourd'hui. Je ne parlerai pas de ceux qui ont un pourcentage de population musulmane inférieur à 1%. Alors cette grande diversité tient à ses origines multiples. L'islam s'est propagé en Extrême-Orient principalement dans un contexte indo-boutique, faut-il le rappeler, par la voie du commerce et par le biais de musulmans d'origines ethniques et culturelles diverses, des Arabes, des Persans, des Indiens, des Tchams, des Chinois. Sa diversité tient également au substrat local hétérogène qu'il a rencontré dans sa propagation. Il a dû s'y adapter lorsqu'il prit pied d'abord dans les sociétés marchandes portuaires, puis palatines, et en progressant enfin lentement dans les sociétés agraires. Car contrairement aux opinions reçues, l'islam admet la coutume comme source de droit, dans la mesure où celle-ci ne contredit pas la lettre de la loi islamique qui elle-même, soulignons-le, est interprétée de manière variable. Alors dans un premier temps, je présenterai les traits communs de l'islam dans ces divers états. En seconde partie, j'évoquerai l'islam dans les 3 pays où il se trouve en situation majoritaire, c'est-à-dire l'Indonésie, la Malaisie, où il, vous voyez sur la carte, il fait 60,4% de la population, et à Brunei avec 67%. Je m'attarderai là davantage sur l'Indonésie, non seulement parce que j'en suis spécialiste, mais à cause de cette expérience de démocratie en pays musulman. Dans une troisième partie, j'essaierai de dégager brièvement les particularités de l'islam en situation minoritaire dans 6 pays, où il représente entre 1,3 et 15%, la moyenne étant autour de 5%, dans les pays, donc aux Philippines, vous pouvez le voir sur la carte, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, Singapour et la Chine. Alors pourquoi cette différenciation entre islam en situation majoritaire et minoritaire? Eh bien, dans les pays en situation d'islam en majoritaire, la question de la relation de l'islam à l'État, à la Constitution, au droit est réglée librement en démocratie et devient le sujet de débat entre partis séculiers, islamiques et islamistes. Alors, la première partie, c'est peut-être la plus facile puisque je souligne ici les traits communs et ils sont quand même assez nombreux, vous allez le voir. Car au-delà de la diversité que nous venons d'évoquer, il est important quand même de souligner cette unité d'islam d'Extrême-Orient qui tient sa nature. Il est majoritairement sunnite et de rite chaféite. Si le chiisme ou la présence du chiisme est attestée dans les premiers foyers d'islamisation, sa présence aujourd'hui est minimale. Il a été autorisé officiellement en Indonésie après la chute du président Suharto, où il exerce aujourd'hui une certaine attraction sur une partie de la jeunesse. Cet attrait était politique en 1979, à la chute du Shah d'Iran. Aujourd'hui, il est davantage de nature religieuse, tout simplement parce que il permet une certaine liberté dans les relations du couple, dans les milieux qui sont plus islamisés que d'autres. Alors, le deuxième point commun à notre région tient au fait que l'arabe reste mal connu. Le malais reste la langue utilisée dans toute l'Asie du Sud-Est, comme l'ourdou dans le sous-continent indien. Ceci a résulté en une grande dépendance de la population vis-à-vis du savoir d'une élite religieuse, qui maîtrise, elle, aussi bien l'arabe que les langues vernaculaires, et le malais en particulier. En Chine, c'est le persan qui a longtemps été la langue de l'islam et qui est aujourd'hui remplacé de plus en plus par l'arabe. Tous ces pays ont été également touchés par la vague du réformisme égyptien, puis saoudien, qui s'est propagée à la faveur des échanges maritimes facilités par la navigation à vapeur et l'ouverture du canal de Suez dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ce réformisme a véhiculé un appel à la purification des pratiques, jugées par certains trop hétérodoxes, mais également un appel à la modernisation de l'enseignement. Et les États indépendants ont poursuivi cet effort éducatif. Aujourd'hui, les taux d'alphabétisation de notre région sont les plus élevés du monde musulman, c'est-à-dire 88,7% pour la Malaisie, 87,9% pour l'Indonésie et 93,9% pour Brunei. S'il existe un point commun fort entre ces communautés islamiques aujourd'hui, c'est la rapidité des transformations qu'elles subissent depuis les 20 dernières années. Et elles ont toutes été marquées par le phénomène de résurgence islamique. Depuis les années 80-90, les traductions de l'arabe se sont multipliées. En Indonésie notamment, l'influence de l'égyptien Yusuf al-Qardawi, un auteur prolifique établi au Qatar, s'accroît aux dépens de celle des lettrés locaux. Les mouvements transnationaux se sont développés depuis les années 80. Les frères musulmans, la Jemaa Tabligh, les Tablighis, un mouvement missionnaire piétiste très prosélyte, ou encore le Hizb ut-Tahrir qui prône le rétablissement du califat. Ces mouvements ont amplifié les demandes d'une application plus stricte de la loi islamique et ces demandes étaient quand même présentes depuis les indépendances. Il n'existe pourtant nulle part une unité d'opinion dans la population sur cette question fondamentale. Enfin, ce qui unit également l'islam de notre région, c'est la présence des réseaux de la Jemaa Islamiya, ce groupement radical et violent dont on entendit parler en octobre 2002 au moment des attentats de Bali. Il concerne presque tous les États dont nous allons parler, mis à part la Chine et la Birmanie. Alors, dans ma deuxième partie, je m'attacherai, comme je vous l'ai dit, à parler tout d'abord de l'Indonésie, de cette expérience toute nouvelle qui date de 1998, d'une démocratie qui est arrivée, il faut le dire, après 32 années du régime du président Suharto et qui fait que l'Indonésie est aujourd'hui devenue la première démocratie musulmane du monde. Alors pour comprendre cette évolution, il est nécessaire de revenir un moment sur l'histoire qui a marqué durablement l'islam indonésien. Sachons que l'islam ne s'implante qu'au XIIIe siècle, une islamisation lente et tardive, et que le processus d'islamisation à l'intérieur des îles a continué pendant la période de la colonisation hollandaise et a été assez fort au cours du XXe siècle. Comme les autres pays, l'Indonésie a été influencée par le mouvement de réforme de l'islam au XXe siècle, qui a amené ici, et c'est particulier, une ouverture à l'enseignement général au sein même des écoles coraniques qui commencent à introduire les matières générales à partir de 1929. Cette transformation sera poursuivi plus tard, notamment sous le régime Suharto, qui multiplie les ponts entre l'enseignement religieux et l'enseignement général. C'est un point important. À l'indépendance, en 1945, l'Indonésie innove. Elle innove contrairement à l'Inde, contrairement à la partition sanglante en Inde, l'Indonésie va choisir la conciliation avec les îles chrétiennes et hindoues, Bali, en se dotant d'une idéologie de neutralité religieuse, mais imposant le principe du monothéisme. Ce principe revient en quelque sorte à une déclaration de supériorité des religions monothéistes qui n'exclut cependant ni l'hindouisme ni le bouddhisme, déclarées religions officielles également. Les croyances locales, par contre, ont été petit à petit marginalisés. La question de la place de l'islam dans l'État provoque très rapidement une prise d'armes par un mouvement de rébellion qui s'étend à 4 provinces. C'est le Darul Islam qui va troubler la première décennie de la Nouvelle République, faisant entre 15 000 et 40 000 morts et un demi-million de personnes déplacées. 15 000, 40 000 selon les estimations. Les partis musulmans, quant à eux, placent leurs espoirs dans les élections législatives de 1955, les premières élections législatives libres en Indonésie, mais celles-ci les mettent face à face avec une dure réalité. La majorité des musulmans indonésiens ne souhaitent pas l'application de la charia et ils ne récoltent que 43,9% des voix. Les années 1960 ont alors un impact considérable sur l'islam, dont on ressent l'impact jusqu'à aujourd'hui. Sukarno a interdit le plus grand parti musulman, le Mashumi, en 1960, ce qui va créer une profonde blessure chez ces musulmans réformistes, pour beaucoup démocrates. Après la tentative de coup d'État de 1965, la répression anticommuniste, que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, décime l'intelligentsia laïque de gauche, ou la paralyse. L'enseignement, autre mesure après 1965, l'enseignement religieux devient obligatoire, ce qui entraîne une islamisation par l'école et une formalisation des pratiques des nouvelles générations que l'on peut observer aujourd'hui. Les croyances locales n'ayant pas de statut de religion, les Indonésiens sont invités à choisir entre les 5 religions officielles. Aujourd'hui 6 avec le confucianisme. Les conversions à cette époque-là, donc après 1965, les conversions au christianisme d'une partie des sympathisants communistes a créé des rancœurs qui ont modifié les rapports cordiaux des années 1950 entre les partis chrétiens et les partis musulmans. Alors je viens en 1998 et à la chute de Suharto en 1998, où la démocratie s'installe assez rapidement, puisque les premières élections libres ont lieu déjà en 1999, et montrent alors que les partisans d'une application de la charia sont très minoritaires, puisqu'ils ne font que 16%. Pour autant, l'islam indonésien a été transformé pendant les 32 années du régime Suharto, et notamment ses universités. Les nouveaux mouvements de prédication et les mouvements divers ont trouvé dans les campus, dépolitisés par Suharto en 1979, un terrain propice à leur expansion, que ce soit les frères musulmans ou le Hizb ut-Tahrir. Dans leur clandestinité, ils ont pu déjouer la censure, d'une certaine manière, mais déjà, de toute façon, certains auteurs comme Saïd Kutub était traduit et vendu librement en Indonésie au moment même où les écrits de Karl Marx étaient interdits. Dans les années 1990, ces mouvements des campus, ces nouveaux mouvements parfois clandestins mais qui se sont quand même assez bien intégrés dans les campus, ont pris le dessus sur les anciens mouvements étudiants musulmans démocrates et modernistes des années 1970. Les universités islamiques, au contraire, ont évolué dans l'autre sens, celui d'une ouverture au débat sur la loi islamique, sur la contextualisation, on vous en a déjà parlé ici, sur la contextualisation du droit islamique, sur la tolérance, la non-violence, sur le droit des femmes, grâce aux intellectuels indonésiens qui se réclame notamment de Mohamed Harkoun. Il n'est pas le seul, mais puisque je fais ma conférence ici, je le nommerai. Il est d'ailleurs venu en Indonésie plusieurs fois. La nouvelle démocratie a permis une plus grande liberté d'expression qui a bénéficié aux deux courants également, courant libéral et séculier, qui voient dans la solution de la charia une utopie et prêche pour une indonésianisation de l'islam, au contraire de l'arabisation qui se met en route, qui protège le droit des femmes, s'érige contre la polygamie, pour le droit à la pratique des sectes, comme l'Ahmadiyya, qui verra plus tard ses mosquées brûlées en 2005 en Indonésie, et pour la tolérance religieuse en général. La libération de toute censure après 1998 a également ouvert le marché indonésien à tous les courants de pensée, y compris celui qui véhicule les théories d'une conspiration mondiale contre l'islam, répandues avec de plus en plus de liberté et qui ont pris une ampleur considérable. Grâce à la nouvelle presse islamiste, en 2000, le magazine Sabili avait un tirage de 100 000 exemplaires, plus élevé que le premier hebdomadaire d'information indépendant. Il n'est pas étonnant que les premiers attentats de Bali en octobre 2002 aient été lus à travers cette grille. On a parlé alors d'une bombe micronucléaire plantée par les Américains, et cette hypothèse a été prise très vite au sérieux, mais par une partie de la population, et vérifiée par le Conseil des oulémas et abandonnée après vérification des experts. Cette polarisation des opinions sur la question de l'islam est accentuée en 1998 par plusieurs facteurs. Alors, ces facteurs-là tiennent en grande partie à l'instrumentalisation de l'islam par Suharto dans sa tentative de se maintenir au pouvoir avant et après la crise asiatique de 1997. Il a joué la carte islamique, s'appuyant sur les groupes musulmans les plus conservateurs, satisfait de la position inattendue que leur conférait le contexte politique. L'ambiance délétère qui accompagne la chute de Suharto en 1998 débouche sur le conflit des Moluques, dont on a entendu parler un peu en France. Ethnique à l'origine, il devient religieux. Il a fait en tout environ entre 5000 et 8000 morts, autant musulmans que chrétiens. Les tensions se sont accumulées depuis la période précédant la chute de Suharto, au milieu des années 90, où les milieux chrétiens se plaignaient d'attaques multipliées contre les églises à Java. Le conflit a été apaisé en 2002, mais des tensions persistent, notamment dans certaines régions de Sulawesi, autour de Poso. Sulawesi, célèbre pour ceux qui la connaissent sous ce nom, c'est un archipel. C'est sur ce terrain particulier, et je le répète, dû à l'instrumentalisation qu'on a faite de l'islam, qu'a pu prospérer le nouveau djihadisme, plus international, favorisé aussi par le retour des exilés du Darul Islam, vous vous souvenez, ce mouvement de rébellion des années 50, qui ont eu des contacts internationaux en Malaisie et en Afghanistan, où la Jemaah Islamiyah est formée en 1993. La Jemaah Islamiyah, on ne le dit jamais assez, est très minoritaire. Et elle a été affaiblie par des arrestations de la police indonésienne. L'absence d'attentats majeurs en 2006 est encourageant, mais la question du radicalisme violent reste latente. L'Indonésie a procédé très différemment ici des États-Unis sur la question, utilisant des repentis véritables pour tenter de dissuader les prisonniers de recourir de nouveau aux attentats, surtout les kamikazes, à leur sortie de prison. Plus d'une centaine d'entre eux, de prisonniers, la plupart du temps ceux qui ont aidé aux attentats, ont été relâchés et il reste encore plus de 200 prisonniers en Indonésie liés au djihadisme récent. On voit donc que cette nouvelle démocratie a connu une phase initiale particulièrement difficile. Et, je le répète, qui n'est pas étrangère à cette instrumentalisation du religieux pendant les années 1990. Quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui au Parlement que la vieille question de la place de l'islam dans l'État se pose concrètement, non plus en termes d'État islamique, mais d'influence de la loi islamique dans le statut personnel. Le mouvement étudiant islamiste s'est engagé très vite en politique, mais n'a obtenu en 1999 que 1,3% des voix. En modérant son discours sur la charia, son parti, le parti de la justice prospérité, est passé en 2004 à un peu plus de 7% des voix, en soulignant sa volonté de fermeté dans la lutte contre la corruption, qui est un problème majeur en Indonésie. Son influence a été amplifiée par son alliance avec l'actuel président de la République, Susilo Bambang Yudhoyono, et en 2004, le chef du parti, Hidayat Nur Wahid, le chef du parti de la Justice Prospérité, a été nommé président de l'Assemblée consultative, le MPR. Le projet de loi contre la pornographie, qui a été soumis au Parlement, a été l'occasion pour le parti islamiste modéré d'affirmer son identité religieuse. Je donne cet exemple pour illustrer un petit peu ce qui se passe au Parlement. Ce n'est qu'un projet parmi d'autres, mais je n'ai pas le temps, donc je parlerai juste de celui-ci. Ce projet de loi comportait des innovations controversées. Le port du vêtement était réglementé de façon très stricte, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, où le port du short était limité, avec la seule exception des vêtements traditionnels permis uniquement lors des cérémonies. Le projet interdisait toute production artistique, écrit, oral, film, chanson, poésie, images, photo, peinture, je cite, exploitant l'attrait de certaines parties sensuelles du corps d'un adulte, ce qui provoqua un tollé dans le monde artistique. Nos entretiens au Parlement montrent que la lutte contre les propositions islamistes a été plus serrée qu'on aurait pu imaginer au regard de la réputation de modération de la grande majorité des parlementaires musulmans élus en 2004. Cette lutte a été menée par des parlementaires, cette lutte donc pour le projet de contre ce projet de loi a été menée par des parlementaires femmes, appuyées par le parti séculier de Megawati, mais aussi par le courant modéré de l'islam mené par Abdurrahman Wahid, ancien président indonésien, qui est le petit-fils du fondateur de la grande organisation islamique, le Nahdlatul Ulama. Par ailleurs, en dehors du Parlement, le courant fondamentaliste tente d'utiliser la loi sur la décentralisation, votée en 1999, pour réaliser son idéal de société gérée par davantage de charia. Ainsi, plus de 50 administrations locales, sur plus de 260, ont émis des règlements inspirés de la charia à la faveur de cette décentralisation votée en 1999. Il s'agit presque toujours d'imposer le voile aux femmes dans l'administration et de leur interdire de sortir la nuit sous peine de se retrouver au poste de police. On voit que l'Indonésie est devenue une démocratie en pleine effervescence où le débat est quotidien. Ce débat sur le projet de société islamique a donc pris un tour plus concret et les deux courants dit libéral et radical, s'affrontent jusque dans les universités islamiques et à la télévision. Le jeune musulman libéral Oulil Abshir Abdallah a été l'objet d'une fatwa réclamant sa mort, contrée par d'autres oulémas moins conservateurs, pour avoir dénoncé le manque d'imagination de ceux qui proposent l'application de la charia. L'enseignante féministe de l'université islamique Mousdamoulia accepte courageusement les invitations des moudjahidines à débattre dans les séminaires publics, et les moudjahidines tels Abou Bakar Bachir, dont on a entendu parler en France, se posent en victimes du régime Suharto, ce qu'ils furent, certes, puis en victimes des minorités indonésiennes, ignorant le fait du rejet de la charia par une majorité musulmane. L'issue de cette lutte d'influence reste donc incertaine. Alors j'en viens maintenant au cas malaisien. Je serai beaucoup plus brève sur les autres pays par manque de temps, je m'en excuse. Mais le cas malaisien est particulièrement intéressant pour la différence fondamentale qu'il a avec l'Indonésie, son voisin, sur le statut de l'islam dans l'État indépendant. Alors ces différences sont liées à la démographie du pays, 60% de la population seulement est musulmane, 60,4%, 19,2% bouddhistes, 9,2% sont chrétiens et 6,3% hindous. Terre de culture du poivre notamment, peu peuplée, la péninsule attira une forte migration chinoise, invitée d'abord par les sultans, puis par les Britanniques dès le XVIIIe siècle. Pour compenser cette migration, ces derniers instituèrent un système préférentiel en faveur des Malais pour l'accès à l'administration et à la scolarité. Les clivages ethniques et religieux, que l'on voit ici, qui sont d'ordre démographique, furent encore accentués au moment de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Japonais firent des Malais leurs alliés, alors que la population chinoise, pour une part plus proche du communisme, résistait fièrement à l'occupation. La Malaisie obtint son indépendance en 1957 et la constitution du pays proclama l'islam religion officielle, ce qu'elle n'est pas donc en Indonésie, tout en garantissant les droits fondamentaux du citoyen et notamment la liberté religieuse. Cette ambiguïté a été porteuse de conflits, notamment pour la liberté de se convertir et de quitter l'islam pour les Malais. La continuité politique de l'UMNO, au pouvoir en coalition avec les partis chinois et indiens depuis l'indépendance, est due à son habile gestion économique, mais elle ne doit pas occulter une évolution de l'UMNO dans le sens d'une islamisation du discours et du droit qui a polarisé des communautés autrement inextricablement liées dans une économie florissante. Certes, le phénomène de résurgence islamique qui caractérise les années 70 a trouvé dans cette communauté malaise en quête de différenciation ethnique un terrain propice. La pratique religieuse des musulmans est aujourd'hui plus réglementée qu'elle n'était dans les années 70. La police veille au respect du jeûne du Ramadan dans les lieux publics, à la non-consommation d'alcool des musulmans, et interdit la proximité de personnes de sexe opposé dans le kalwat, impliquant au moins un musulman. La Malaisie a été épargnée, on l'a vu, par la vague d'attentats qui a secoué l'Indonésie. Et pourtant, elle a abrité longtemps les dirigeants de la Jemaah Islamiyah à Johor et certains des artificiers de la Jemaah Islamiyah qui ont été actifs en Malaisie, qui ont été actifs en Indonésie, sont malaisiens. Voyez, je serai vraiment brève pour la Malaisie, faute de temps. Pour Brunei, vous voyez sur la carte Brunei, donc au nord de l'île de Bornéo. Brunei est un cas unique en Extrême-Orient. C'est la seule monarchie islamique dotée d'une idéologie officielle, Melayu Islam Beraja, ou monarchie malaise islamique, qui a acquis son indépendance des Britanniques seulement en 1984. Contrairement à ses voisins, Brunei a été épargné jusqu'ici de la montée d'un islam politique d'opposition. Et la Jemaah Islamiyah ne semble pas y avoir fait des adeptes. Pourtant, le discours anti-occidental et la peur d'une certaine christianisation est aussi très présente chez les religieux du sultanat. Alors je viens maintenant à ma troisième partie sur l'islam en situation minoritaire. Je vais parler ici de nombreux pays. J'ai essayé de les diviser un peu en deux blocs. On remarque que des mouvements sécessionnistes sont présents dans trois de ces pays, les Philippines, la Birmanie et la Thaïlande. Et pourtant, éloignons-nous des thèses essentialistes, les contextes politiques et religieux sont très différents dans ces trois pays. Alors j'en ferai une esquisse très brève ici aussi. Aux Philippines, donc la plus proche de l'Indonésie, où les échanges ont toujours été très, très importants entre le nord de l'Indonésie et les Philippines, encore aujourd'hui, la minorité de 5%. C'est, vous voyez alors sur la carte, ce sont les parties en gris qui indiquent la présence de communautés musulmanes. Vous voyez que sur le site philippin, c'est le sud de l'archipel qui est concerné. Ce sud philippin a une longue histoire d'insoumission à Manille, que ce soit du temps de la colonisation espagnole, qui a christianisé l'archipel, puis la colonisation américaine. La question fondamentale qui a troublé les relations avec Manille après l'indépendance est de nature territoriale. Avec le déplacement de populations du centre de l'archipel vers le sud, population chrétienne, qui a changé la donne démographique et fait basculer la majorité musulmane dans certaines parties du sud pendant les années 1960. C'était un déplacement de population d'ordre pour des raisons économiques, en partie contrer le communisme. Une autonomie a été accordée donc à 5 provinces du sud philippin en 1987. Ces 5 provinces aujourd'hui majoritairement musulmanes, mais le mouvement de sécession, donc le MNLF, la relève a été prise très rapidement par le Moro Islamic Liberation Front, le front islamique de la libération Moro, qui a pris le relais avec des revendications, cette fois d'ordre religieux. Le MILF a aujourd'hui une armée de 10 000 combattants dans le sud des Philippines. Le conflit est devenu endémique dans cette zone depuis lors et naturellement, il a fourni un terrain propice à l'entraînement de la Jemaa Islamiyah pendant les années 1990. Les récentes opérations militaires conjointes philippino-américaines engagées après la vague d'attentats qui a touché la région après le 11 septembre, ont attisé les tensions dans cette zone où l'on compte de nombreuses victimes, de nombreux civils parmi les victimes. Il faut dire pourtant que l'islam philippin est pluriel, il n'est pas seulement présent dans le sud, il est présent aussi à Manille, il est pluriel et les loyautés tribales sont parfois plus fortes que l'identité musulmane. Alors la Birmanie. La Birmanie, elle, donc avec une population de une minorité musulmane de 4%, une minorité des communautés musulmanes, vous le voyez, éparses, elle connaît plusieurs mouvements sécessionnistes qui sont concentrés sur l'ouest du pays, en Arakan, une région donc proche du Bangladesh, où plusieurs mouvements sécessionnistes rohingyas sont présents. Dans cette partie de la Birmanie, les Rohingyas ont commencé à émigrer des régions du nord de la Birmanie depuis le XVe siècle et sont concentrés aujourd'hui dans les 3 districts les plus au nord de l'Arakan. Aujourd'hui, environ les 2/3 des musulmans de Birmanie sont des descendants de populations d'Asie du Sud qui ont émigré vers la Birmanie pendant la colonisation britannique. Les mouvements de sécession en Birmanie ont été sévèrement réprimés et une grande partie des musulmans d'Arakan se trouve aujourd'hui en exil en Malaisie et en Thaïlande également. Alors la Thaïlande, c'est encore un phénomène très très différent, puisque, avec 4,6%, une minorité de 4,6%, vous voyez qu'elle se trouve principalement au sud du pays. Alors je dis 4,6%, le chiffre est contesté, certains le placent à 7%. Je me tiendrai au chiffre officiel. Donc, comme en Birmanie, l'islam est ici aussi la religion d'une population culturellement et linguistiquement différente de la population majoritairement bouddhiste qui se trouve au nord, dans l'autre partie de la Birmanie. Mais il ne s'agit pas ici d'une population immigrée, mais de provinces habitées par des populations culturellement plus proches des Malais de Malaisie, une zone qui couvre à peu près l'ancien sultanat de Patani. Ses relations avec son puissant voisin Thaï ont oscillé dans une plus ou moins grande dépendance jusqu'à 1902, lorsque la Thaïlande décida d'administrer directement le sud. Après cette date, les relations furent souvent conflictuelles. On a accusé notamment la Thaïlande de thaïcisation de ses populations. Mais la démocratisation des années 1980-90 avait fait du Thaï un exemple, après tout, assez réussi d'intégration. Des ministres musulmans avaient ainsi été nommés et on avait même eu un président du Parlement de confession musulmane. Ce succès a été remis en question depuis 2001 avec une aggravation des violences après 2004 qui n'ont pas été revendiquées par les mouvements sécessionnistes. Il semble, c'est encore un point d'interrogation, pour les spécialistes, mais il semble que ces dernières violences sont liées au contexte international, mais aussi à la répression très dure des forces armées thaïlandaises, comme on l'a vu en 2004. Alors maintenant, je viendrai à trois autres pays qui, eux, ne connaissent aucun mouvement sécessionniste. Et je passerai tout d'abord au Cambodge. Voyez le Cambodge qui a une population d'environ 5,14%. Alors, ici, ce sont des communautés musulmanes en exil qui ont fui le royaume du Champa, qui a subi les pressions vietnamiennes depuis le XVe siècle. Ils sont linguistiquement très différents des Cambodgiens, et très conscients de leur histoire et de leur origine. Alors, il y a également des populations d'origine de la péninsule et de Java, dont je ne comment implanter de longue date. Alors, l'une de ces communautés de Cham en exil, dont je parlerai ici, elle est assez intéressante parce que c'était vraiment un cas tout à fait à part que j'ai pu visiter en 2004. C'est la communauté des Djahed. Les Djahed vivent un islam très très hétérodoxe. Le porc est interdit, donc ils se disent vraiment musulmans, mais les cinq prières ne sont pas conseillées. Et la prière du vendredi, tout comme le jeûne du ramadan, est déléguée à quelques membres du groupe, et c'est une délégation des pratiques qu'on retrouve également chez les Chambani du Vietnam. Alors, la répression antireligieuse des années communistes, qui ont touché aussi les bouddhistes, a laissé un certain vide au Cambodge que se sont empressés de remplir les mouvements prosélytes, tels que le Jamaat Tabligh, et aussi les fondations caritatives, les fondations éducatives, comme le Revival Islamic Heritage Society, le RHIS, basé au Koweït. Singapour. Alors, Singapour est une cité-État à la pointe, vous voyez, de la péninsule malaise. Elle semble être une des communautés les mieux intégrées jusqu'à aujourd'hui et forme aussi la plus grande minorité musulmane dans la région, c'est-à-dire 15%. De la population totale. Singapour a toujours été particulièrement soucieuse de bien intégrer sa minorité musulmane largement malaise et elle a de bonnes raisons historiques pour ce faire. En 1965, vous le savez peut-être, Singapour fut expulsé de la fédération malaise en partie parce que sa participation aurait donné une majorité chinoise à la fédération, ce qui aurait posé problème en effet. Elle a connu des émeutes de nature religieuse en 1950 et en 1964 qui ont aiguisé ce sentiment de prudence. Parmi les mesures prises en faveur de l'intégration de la communauté musulmane, citons un système parlementaire garantissant une certaine représentation des minorités. Aujourd'hui, 12 parlementaires musulmans ont été reconduits en 2001. Singapour a été d'autant plus choqué en 2001 par la découverte de tentatives d'attentats sur son sol très peu de temps avant les attentats indonésiens. Alors, une dernière note sur l'islam chinois. L'islam chinois, vous voyez, c'est ici une carte d'Asie du Sud-Est, donc la Chine n'a pas vraiment la place qu'elle mérite, vous m'en excuserez. L'islam chinois ne représente que 1,3% de sa population, mais il s'agit quand même d'environ 20 millions d'individus. Alors, il faut différencier ici entre les Hui, qui sont ethniquement et linguistiquement semblables aux Han, donc de langue chinoise, et de l'autre côté, les populations turcophones, on ne voit pas sur la carte, du Turkestan, le Xinjiang. L'islam des Hui est lié au commerce maritime de notre zone, mais davantage encore à l'Asie centrale. Les Hui bénéficient aujourd'hui d'une appartenance à une Minzu, une des minorités nationales porteuses de quelques privilèges concrets. Ils peuvent avoir deux enfants, au lieu de un pour les Han, et leur accès à l'université est plus facile. Le formalisme religieux gagne pourtant également l'islam chinois, en particulier par le biais des écoles sino-arabes construites avec des fonds privés pour permettre aux jeunes musulmans d'accéder à un enseignement religieux en pays laïque. Voilà, j'ai fait le tour de 10 pays. Vous m'excuserez d'avoir été un petit peu rapide. Vous verrez qu'il est très difficile de conclure sur autant de diversité. J'aimerais, si vous voulez, et puis on pourra peut-être en parler pendant les questions, revenir à l'Indonésie. À l'Indonésie, tout simplement parce que, avant la chute de Suharto en tout cas, les regards commençaient à se tourner vers ce pays. On commençait à découvrir un petit peu l'importance de cette communauté musulmane, cette coexistence pacifique qui était tout à fait remarquable pendant toutes ces années. Et par contre, la démocratie indonésienne n'a pas eu l'attention qu'elle mérite, à mon avis. On a beaucoup parlé des attentats de Bali, on a beaucoup parlé de la Jemaah Islamiyah, de Abu Bakar Bashir, mais pas suffisamment de cette démocratie indonésienne qui est quand même tout à fait remarquable. Alors, ce que je peux dire par rapport à ceux qui se posent un peu la question sur en quoi est-ce que d'autres pays musulmans pourraient regarder l'expérience, jeter un œil sur cette expérience indonésienne, je dois dire que il est indéniable que l'Indonésie a souffert longtemps d'un certain sentiment d'infériorité par rapport à son éloignement des lieux sacrés de l'islam. Les intellectuels musulmans indonésiens ont le ressenti très longtemps et ils me l'ont dit assez clairement. Pourtant, comme je le disais, elle a longtemps cherché à mettre en valeur son rôle de modèle de coexistence pacifique avec ses minorités. Il est certain, et je pense qu'il faut insister là-dessus, que l'instrumentalisation politique de l'islam dans les années 1990 a affaibli la perspective d'une saine démocratie. Néanmoins, la démocratie indonésienne a réussi à tenir déjà deux élections libres depuis 1998, sans grands incidents et sans fraude. La clé, à mon avis, semble être entre les mains des partis dits séculiers et pluralistes, dont l'orientation reste souvent déterminée, malgré tout, par des préoccupations électoralistes. Ceux-ci étant soit limités par leur coalition avec des partis islamistes, soit incertains sur la volonté de leur propre électorat en matière de loi islamique. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors, que ceux qui veulent poser des questions se manifestent. Allez-y. Voilà, monsieur, ici.
Madame, deux questions. Si j'ai bien entendu, vous nous avez dit qu'il y avait eu une résurgence islamique dans presque tous ces pays. Donc ma première question, c'est comment expliquez-vous que ce phénomène ait été aussi général ?
On vous entend très mal.
Comment expliquez-vous que le phénomène de résurgence islamique ait été aussi général dans des pays aussi différents ? C'est la première question. Et deuxième question, considérez-vous qu'aujourd'hui, aussi minoritaire soit-il, les islamistes ont une influence croissante dans ces pays ou pas?
Je vous remercie. Alors pourquoi la résurgence? Elle n'est pas uniforme, disons-le déjà. Elle a certainement touché beaucoup la Malaisie, beaucoup l'Indonésie également. Alors, je pense que pour l'Indonésie en tout cas, parce que je crois qu'il faut toujours faire une différence entre les contextes sociopolitiques qui sont très très différents. C'est pour ça que j'ai essayé de l'expliquer dans mon exposé. Pour l'Indonésie en tout cas, si elle a eu un impact aussi important, c'est que elle a pu se prendre pied dans les campus universitaires à un moment où ces campus étaient dépolitisés par Suharto, notamment à partir du début des années 80. Un autre facteur, c'est également ces contacts, ces réseaux, les traductions, beaucoup de traductions en arabe. Comme je l'ai dit, Saïd Koutoub a été traduit, il a été lu partout, Maududi pareil, au moment où Karl Marx était interdit en Malaisie. Il faut penser que le flot d'influence n'a jamais cessé. Il était aussi présent au moment de Sukarno, pendant la colonisation hollandaise. C'est important de voir que ces contacts ont toujours eu lieu, ne serait-ce que par le pèlerinage qui a eu quand même beaucoup de succès en Indonésie, et puis par les étudiants qui ont eu des bourses pour aller au Moyen-Orient et en Égypte également, et puis par le la résurgence islamique a certainement attiré beaucoup de monde parce que c'était aussi en Indonésie en tout cas une alternative, la seule alternative visible pendant toutes ces années 90. Il faut dire quand même que pendant les années 90, l'islam moderniste modéré a été très 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 présent, que ces mouvements des campus universitaires étaient à cette époque-là encore beaucoup moins visibles qu'ils ne sont aujourd'hui, et que c'est vraiment 98 qui sont apparus. Donc une certaine clandestinité malgré tout, beaucoup de traductions, beaucoup d'intérêt pour ce qui se passait au Moyen-Orient, une conscience accrue du fait qu'on est musulman, c'est-à-dire qu'on se pose la question, on est aussi très touché par le contexte international, la guerre en Bosnie, le conflit du Golfe, tout ça a commencé à faire prendre conscience à l'Indonésie, en tout cas à la jeune génération musulmane indonésienne, qu'elle faisait partie de ce monde très vaste auquel qu'elle essayait de mieux comprendre et qu'elle comprenait à travers un peu la presse indonésienne, une presse indonésienne donc elle a été quand même assez libre, elle n'a pas été entièrement libre, elle était très très fermée sur tout ce qui était opposition au régime, mais avec une certaine liberté quand même sur le contexte géopolitique à cette époque-là. Voilà, si je peux, je vous remercie.
Voilà.
Oui, bonsoir madame. Peut-on détecter ou supposer, déceler des influences plus ou moins directes de certains États islamiques dans cette partie du monde? En Asie centrale, par exemple, on peut voir des mosquées financées par l'Arabie saoudite ou par l'Iran, par les sunnites ou par les chiites. Est-ce que cela se produit également dans cette partie du monde?
À l'intérieur de l'Asie.
Oui, alors, c'est la question la plus difficile. Elle se fait à travers les bourses, beaucoup à travers les bourses. Je dirais quand même que ce sont beaucoup plus les Asiatiques eux-mêmes qui ramènent de leur séjour au Moyen-Orient toutes ces idées qui ont lu. Il y a beaucoup de jeunes Asiatiques qui ne sont jamais allés au Moyen-Orient, qui n'ont jamais fait d'études au Moyen-Orient, mais qui lisent énormément. Et je crois que ces lectures sont beaucoup plus fondamentales. Alors bon, il est certain que l'Arabie saoudite, aujourd'hui en Indonésie, par exemple, finance un institut. Alors ce sont des instituts pour l'apprentissage de l'arabe. Des bourses sont données à beaucoup de jeunes musulmans désirant aller à Jakarta apprendre l'arabe. Donc cette influence se fait par là également. Mais je ne pense pas que ce soit véritablement un facteur fondamental. J'ai l'impression que toute cette nouvelle presse islamiste, en tout cas en Indonésie, attire énormément de lecteurs parce que tout simplement, elle présente souvent une vision très très manichéenne des choses. Alors, quand on connaît peu le contexte historique mondial, on est très 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 vite fasciné par la version qui est donnée de tous ces événements mondiaux, depuis les croisières jusqu'à la domination occidentale coloniale, l'impérialisme, le communisme, etc. Et donc on se retrouve face à des lecteurs qui n'ont pas véritablement toujours la formation pour pouvoir relire un petit peu toute cette interprétation qu'on leur donne et comme je l'ai dit, cette presse est quand même assez importante. Elle a un petit peu diminué. Elle était très importante en Indonésie pendant le conflit des Moluques. On a eu à un moment une lecture de... on avait à peu près 450 000 lecteurs en 2000 de ce magazine, Sabili. D'autres magazines ont été on rejoint Sabili, on sont des concurrents aujourd'hui. Donc je crois que l'influence de ce facteur est vraiment importante et que on le mesure mal, on le mesure mal et très souvent les ambassades n'y font pas vraiment attention non plus, parce qu'en effet, bon, ce sont des magazines qui sont minoritaires dans l'ensemble de la presse indonésienne, il faut bien le dire. Mais en même temps, comme on ne le lit pas, du coup, on n'y répond pas non plus. Vous voyez, je veux dire, pendant en 2003, je crois bien, par exemple, Tariq Ramadan est venu en visite en Indonésie et il était interviewé dans le magazine Sabili à l'occasion de sa visite. Et alors, ce qui était étonnant, c'est qu'il avait été invité en Indonésie par les jeunes libéraux, Ulil Abshir Abdallah dont j'ai parlé, et puis en fin de compte, quand il est arrivé en Indonésie, il a aussi intéressé immédiatement les groupes les plus conservateurs, dont le Dewan Dakwah Islamia indonésien. Et donc, dans ce magazine, eh bien, il y avait une interview de Tariq Ramadan qui disait que, je ne sais pas si on a déformé ses propos, mais que il fallait se méfier de l'islam libéral, puisque c'était des musulmans sans islam. Donc, les jeunes libéraux eux-mêmes n'ont lu que bien plus tard ce magazine Sabili, et donc on assiste, si vous voulez, ce que je veux dire ici, c'est que nous sommes dans deux mondes complètement différents, qui communiquent pas énormément entre eux, qui ne connaissent pas les mêmes contextes historiques. Je dis, pour les jeunes qui viennent des écoles coraniques, n'ont pas du tout la même connaissance de l'histoire mondiale que les jeunes musulmans indonésiens qui ont été élevés dans des écoles, qui ont été éduqués dans les écoles généralistes, d'éducation générale, et qui sont passés par l'université, qui ont fait des études de sciences politiques. Ce sont un petit peu, si vous voulez, de monde, je ne dirais pas qui s'ignore, mais qui se connaissent quand même très très peu. Et je crois que c'est fondamental, c'est que, comme nous, on connaît aussi, en Occident, on connaît aussi très très peu ce qui préoccupe ces sociétés musulmanes, très diverses, il est vrai, et que nous, pareil, quelque part, on ne s'intéresse pas, on ne, peut-être pas assez, à cette vision du monde qui est en train de se développer dans certaines sociétés et qui dans certaines sociétés musulmanes et qui ont un impact quand même assez important sur un anti-occidentalisme qu'on a vu à l'œuvre et qu'on perçoit dans les opinions publiques. Je pense que cette question-là, elle est fondamentale et que on n'y prête pas suffisamment attention. Personne, par exemple, dans tous les magazines islamistes que j'ai lus, pour faire par exemple cet ouvrage que j'ai fait avec Rémi Madinier sur l'islam radical en Asie du Sud, en Indonésie, pardon, qui est paru en 2006, nous avons dû lire énormément de cette littérature islamiste. Et donc, c'est pour ça que j'en parle un petit peu ici. Ce qui est absolument frappant, c'est que ces thèses du complot, de la conspiration internationale, occidentale, judéo-chrétienne, contre l'islam, elle suit son cours, et que, par exemple, on parle énormément des croisades. La question des croisades, en fin de compte, on revient, l'histoire commence avec les croisades. Alors, cette question des croisades, par contre, n'est jamais abordée nulle part. C'est quelque chose, c'est un questionnement sur l'histoire des croisades que, dans la presse indonésienne, on ne voit aborder absolument nulle part. voyez. Et je crois que c'est vraiment un point fondamental pour comprendre ce qui se passe dans ces sociétés, une sorte de monde parallèle, si je puis dire, et donc qui demandera un effort, à mon avis, plus important de notre part, un intérêt plus important en général. Je pense que en Indonésie, par exemple, on s'intéresse énormément à ce qui se passe en France. Je ne pense pas que l'inverse soit vrai pour la France. Alors, je vais vous, puisque je parle de la France, bon, par exemple, au moment de la loi sur le voile, sur les symboles religieux, excusez-moi, je me trouvais en Indonésie à cette époque-là, et là, véritablement, il y a eu un intérêt immédiat pour la question du voile en France. Et nous avons eu des universités islamiques, alors je vous l'ai dit, je voulais souligner, les intellectuels indonésiens qui sont très souvent modérés, modernistes, surtout dans les universités à Java, les universités islamiques à Java, ont voulu connaître plus sur la laïcité française. Et nous avions organisé à cette époque-là une série de conférences dans les universités où nous avions invité le professeur Jean-Marie Mayer qui était venu présenter l'histoire de la laïcité française qui, en fin de compte, a intéressé énormément les intellectuels en petit comité, n'est-ce pas ? Mais la presse indonésienne en a parlé et c'était vraiment quelque chose d'assez fascinant de voir comment on pouvait expliquer un phénomène aussi complexe que la laïcité française à des intellectuels dans les universités islamiques. Et ils sont acceptés, en tout cas ils ont été très intéressés par ce phénomène de notre laïcité qui est bien spécial en Europe et qui est souvent aussi très mal compris par les Européens eux-mêmes. Alors, je pense que je vais laisser la parole, on a encore un peu de temps. Alors, peut-être juste une dernière chose, j'ai terminé dans les temps, donc j'ai le droit de répondre un peu plus longuement aux questions, si vous ne... mais je pense que ça va vous intéresser, parce que je ne suis pas sûre que les questions vont être posées. J'ai vu j'ai entendu dans le deuxième exposé qui vous a été fait dans ce cycle par M. Godard, quelque chose qui a été dit sur le CFCM. Et notamment qu'on n'était pas sûr que le CFCM aurait une influence quelconque ou aurait une fonction quelconque vu la difficulté de rassembler les musulmans de France. Alors je vais juste une toute petite anecdote qui va vous montrer quand même que le CFCM a peut-être sa raison d'être. Eh bien, je me suis retrouvée, donc j'étais en Indonésie détachée pendant 3 ans tout récemment, au moment de la fameuse loi, et l'Indonésie, la présidente Megawati Sukarnoputri, dans une grande assemblée sur de religieux du monde entier, a montré du doigt la France. Et au sujet de cette loi sur le voile, sur les symboles religieux. Et là, un représentant du CFCM était là et il a voulu à cette époque-là, à ce moment-là, réagir. Il a réagi, il a fait une conférence de presse, il a rencontré des leaders musulmans indonésiens et bon, j'étais son interprète. Et en l'espace de très très peu de temps, en fin de compte, il avait réussi à convaincre son auditoire parmi les certains religieux assez conservateurs du cas français. Donc voilà, pour la petite anecdote qui méritait quand même, puisque je ne suis persuadée que en France on n'a pas eu vent de ce petit incident qui avait quand même assez bien tourné finalement grâce au CFCM. Voilà, je vous laisse la parole pour d'autres questions.
Allez-y. Mais qu'est-ce qu'ils ont là ? Comment ils font ? Je ne veux rien de lâche.
Je vous remercie. Alors, en effet, bon, il y a certainement un volet financier. C'est certainement vrai pour les bourses, par exemple. C'est certainement vrai aussi pour. Oui, pardon. Alors, ce volet financier, c'est plus clair, il existe en effet, mais par exemple, si nous revenons aux attentats, par exemple, la Jema Islamia, eh bien, il est évident que pour la Jema Islamia, les financements qu'on a vus, donc qu'on connaît, ne sont pas excessivement importants et que on peut fabriquer des bombes avec très peu d'argent. Donc, en tout cas pour cette question du djihadisme, je pense que elle n'est pas fondamentale. L'aspect financier n'est pas fondamental. Il est beaucoup plus pour les questions des bourses. Alors, vous savez que les États-Unis ont fait un effort énorme pour distribuer davantage de bourses. Aux étudiants musulmans, en tout cas en Indonésie, on a un afflux de bourses pour les étudiants des universités islamiques. Je ne sais pas si l'effet sera ce que souhaite le président Bush dans le contexte politique d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose en effet. Alors en plus, il y a certainement tout le business islamique dont je ne parlerai pas ici puisque ça serait trop long, mais c'est un facteur en effet qu'il faut prendre en considération.
Bon, je crois qu'on va en rester là. Je vous remercie. Demain